VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 14h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Course à la Maison Blanche aux États-Unis, le milliardaire républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton continuent aujourd'hui leur campagne pour l'investiture présidentielle de leur parti respectif après avoir remporté des succès éclatants hier soir dans les primaires dans plusieurs États du Nord-Est. Le point avec Jean-Roger Bion qui commence par les résultats dans le camp républicain.
Le milliardaire Donald Trump a triomphé mardi dans les 5 primaires républicaines organisées sur la côte est américaine, tandis que Hillary Clinton a gagné 4 scrutins démocrates, distançant de façon décisive son rival Bernie Sanders. Donald Trump est arrivé premier dans le Maryland, la Pennsylvanie, le Delaware, Connecticut et Rhode Island. Ses marges de victoire sont formidables, dépassant 50 voire 60% des voix selon les États contre le sénateur du Texas, Ted Cruz, et le gouverneur de l'Ohio, John Kasich. Mais la bataille se déplace maintenant dans des États a priori moins favorables au milliardaire, à commencer par l'Indiana dans une semaine. Pour l'homme d'affaires, l'important n'est pas seulement de gagner les primaires restantes, il lui faudra s'imposer avec un très fort pourcentage dans les 10 derniers scrutins afin d'atteindre les 1237 délégués et de ravir l'investiture de façon incontestable avant la convention de Cleveland au mois de juillet.
Et l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton dans le camp démocrate, quels ont été ses résultats hier soir, Jean-Roger?
Hillary Clinton, quant à elle, a empoché les grands États du Maryland et de la Pennsylvanie, ainsi que le Connecticut et le Delaware. Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, n'a gagné que dans le petit État de Rhode Island. Avec ses 4 victoires mardi, Hillary Clinton a engrangé une avance quasi insurmontable sur Bernie Sanders, qui aurait besoin de gagner environ 85 % des délégués restants pour la surpasser. S'exprima à Philadelphie, en Pennsylvanie, où aura lieu la convention démocrate en juillet, Hillary Clinton a affiché la confiance des vainqueurs, entrant en scène au son de « Eye of the Tiger », la chanson du film Rocky, étendant la main aux électeurs de Bernie Sanders. « Que vous souteniez le sénateur Sanders ou moi, ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise », a-t-elle ajouté. Et elle a attaqué les Républicains et Donald Trump pour leur position anti-musulman, leur déni du changement climatique ou leur contestation du droit à l'avortement.
Merci Jean-Roger Bion.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique maintenant, crise au Burundi. Bujumbura pose des conditions à sa participation aux négociations sur la crise burundaise prévue à Arusha, en Tanzanie, début mai. Le gouvernement burundais souhaite être consulté, notamment sur les participants à ce dialogue, après l'annonce par les médiateurs internationaux d'une reprise des discussions à partir de lundi prochain à Arusha. Bujumbura attend en outre une invitation officielle, sans quoi le gouvernement du Burundi considère nécessairement que ce qui se dit est une machination ou une rumeur, a souligné Willy Nyamitwe, responsable de la communication de la présidence burundaise, à la radio nationale. Côté États-Unis, Washington a salué la nouvelle initiative de l'ex-président tanzanien Benjamin Mkapa, co-médiateur dans la crise burundaise. Les États-Unis exhortent les parties burundaises à participer pleinement, sans condition préalable, selon un communiqué du Département d'État américain. Toujours au Burundi, une année vient de s'écouler depuis la candidature du président Pierre Nkurunziza à un nouveau mandat contesté et le début des manifestations. Plus de 500 personnes ont été tuées et plus de 270 000 se sont réfugiés à l'étranger dans les pays limitrophes. Dans les quartiers contestataires de la capitale, la vie reprend petit à petit. Notre correspondant Christophe Nkurunziza s'est rendu dans les quartiers de Chibitoke et Mutakura, au nord de Bujumbura.
Mutakura, 13e avenue, des habitations restent fermées tandis que des boutiques ont ouvert. Très peu de personnes sont visibles. Les rares passants ne veulent pas parler aux journalistes. Ils ont peur de relater ce qu'ils ont vécu et vu il y a une année. Mais l'artère principale qui divise les quartiers Chibitoke et Mutakura rouille de voitures et des taxis communément appelés tuk-tuk. Mais cette jeune fille que nous avons rencontrée, la vingtaine, affirme que dès 18h, elle ferme automatiquement sa maison. Cette femme remercie le bon Dieu d'être toujours toujours vivante. Elle affirme que la situation s'améliore. Au moment des manifestations, dit-elle, elle avait même peur d'envoyer les enfants à la boutique d'à côté car elle n'était pas sûre qu'ils allaient rentrer. Aujourd'hui, elle remercie le bon Dieu, mais elle affirme que les gens refusent de venir habiter les maisons gratuitement. Mais des gens commencent à rentrer petit à petit, même s'ils ont peur, indique-t-elle. Beaucoup de Burundais placent l'espoir dans les futures négociations qui commencent au début du mois de mai à Arusha, en Tanzanie. Mais le début de ce dialogue ou négociation coïncide avec l'ouverture par la Cour pénale internationale d'un examen préliminaire sur les violences au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Soudan du Sud, les Nations Unies réclament la formation rapide d'un gouvernement d'union nationale après le retour à Djouba mardi de l'ex-chef de la rébellion, Riek Machar, qui est déjà investi comme vice-président John Lydon.
Le Conseil de sécurité appelle toutes les parties de former rapidement le gouvernement de transition. Le représentant adjoint sud-soudanais Joseph Moun Malok a répondu que ce gouvernement d'union pourrait être formé dans un jour ou deux après des consultations avec les différentes parties. L'ambassadrice américaine Samantha Power a souligné l'importance de lutter contre l'impunité car selon elle, il ne peut y avoir de paix sans justice. Hervé Latsou, patron des opérations de maintien de la paix, estime que le retour de Riek Machar à Djouba devrait permettre de commencer la transition. Il a aussi averti que la situation sécuritaire reste précaire et la situation humanitaire s'est aggravée en ampleur et en urgence. Les 15 pays membres du Conseil exigent le respect des droits humanitaires et que les parties facilitent la livraison de l'aide à la population meurtrie et accordent la liberté de mouvement à la mission de l'ONU sur place.
En RCA, la MINUSCA et le gouvernement centrafricain lancent à Bangui les opérations d'identification socio-professionnelle des ex-belligérants. Au moins 3000 ex-combattants de la capitale seront identifiés dans le cadre du processus de DDR. Les opérations se déroulent à Boirab, dans le 4e arrondissement, où 1500 ex-antibalaka devront être recensés. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
À la différence des activités du pré-DDR réalisées dans certaines régions du pays, les 3000 combattants attendus à l'issue de cette identification bénéficieront du projet Réduction des violences communautaires. 1500 seront recensés parmi les anti-balaka et 1500 autres parmi les groupes d'autodéfense de PK5. Pour Diane Cornet, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, il s'agit d'un projet très important pour l'avenir des combattants et de leur pays, la République centrafricaine. Satisfaction des membres des groupes armés, estimant que ce nouveau projet pourrait contribuer à la cohésion sociale et changer leur vie en attendant le processus DDRR, désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement, proprement dit. L'opération lancée aujourd'hui dans le 4e arrondissement devra se poursuivre dans le 3e arrondissement et dans les zones périphériques de Bangui. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
On passe à l'Afrique de l'Ouest, au Mali. Suite à la disparition de 26 pistolets mitrailleurs dans les dépôts d'armes, le chef d'état-major de la garde nationale a été suspendu de ses fonctions, tout comme le commandant du même groupement. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Depuis l'annonce de la réintégration des ex-combattants dans l'armée, on assiste à toutes sortes de gymnastiques du côté des FAMA que des groupes armés. Chez les FAMA, on assiste à des vols d'armes. Ce sont des militaires maliens qui s'adonnent à cette pratique. Toute chose qui peut dépasser tout entendement, mais qui est une réalité dans les camps, surtout à Bamako. C'est ainsi qu'au niveau du camp de la garde nationale, 26 pistolets mitrailleurs, communément appelés des PM, ont disparu des magasins d'armes. La hiérarchie militaire n'est pas passée par 1000 chemins. Elle a suspendu le chef d'état-major de la garde nationale ainsi que le commandant du même groupement. En tout cas, de leur côté, les chefs rebelles sont en train d'acheter des armes pour les donner à des gens qui ne sont pas des combattants. Après avoir fourni des listes de combattants fictifs dans le cadre de la réintégration des ex-combattants dans l'armée malienne, les ex-rebelles achètent les armes pour deux raisons. Armer les remplaçants des éléments morts ou qui sont retournés dans leur pays respectif. Et donner des armes aux nouvelles recrues qui ont acheté des cartes de combattants dans les régions nord du Mali. Tout cela se passe dans les perspectives du cantonnement ou la réintégration qui se fait sur la présentation d'armes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'enquête sur les attentats de Paris et de Bruxelles maintenant. Le parquet fédéral belge a annoncé aujourd'hui la remise à la France de Salah Abdeslam. suspect clé des attentats de Paris, est lié aux auteurs de ceux de Bruxelles. Rappelons que Salah Abdeslam avait été arrêté à Molenbeek, une commune de Bruxelles, le 18 mars dernier, après 4 mois de cavale depuis les attaques du 13 novembre de Paris. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.